Attention, ici votre droïde de protocole T1BB, relation podcasteur, auditeur. L'équipage du Faucon Millénial étant un peu lent, cet épisode a été coupé non pas en un, non pas en deux, mais en trois parties. Ceci est la troisième et dernière partie. Merci de votre compréhension et bonne soirée ou journée.
Salut à tous, c'est Phobos, membre de l'équipage du podcast Outrider. J'ai beaucoup aimé The Last Jedi, mais un de mes moments préférés du film, c'est une scène très courte qui commence de manière assez anecdotique et qui termine de manière très puissante. Je parlais de la scène juste après la mort de Snoke et le combat de la salle du trône, quand Hux trouve Kylo inconscient. À ce moment-là, Kylo est à terre, Hux écarte légèrement le pont de son manteau pour dégainer son arme, mais Kylo se réveille, ils finissent par se disputer, Kylo l'étrangle et ils échangent les répliques « The Supreme Leader is dead, long live the Supreme Leader ». J'adore ce passage, car cette scène, c'est un peu le moment du film où tout peut arriver, tout peut basculer. En tant que spectateur, on se demande si Hux va prendre le contrôle du First Order, si Kylo va dire la vérité sur la mort de Snoke, et on se demande même si l'un ne va pas tuer l'autre. Bref, c'est la scène qui fait pivoter le film dans son dernier arc et qui donne le ton. Les enjeux n'ont jamais été aussi grands, des personnages qu'on pensait importants viennent de mourir, et surtout, cette scène offre un développement crucial du personnage de Kylo, en soulignant sa violence et son ambition, et, au final, son incapacité à se détacher du passé. Adam Driver et Donald Gleeson sont très justes dans leur interprétation, et c'est d'ailleurs ce dernier qui a improvisé le geste de Hux qui tente de tuer Kylo, et qui, je trouve, ajoute beaucoup à son personnage. J'aime aussi cette scène, car elle est à la frontière entre le « too much » et la sobriété. Too much avec sa dimension très théâtrale et cette référence à la monarchie française. Et en même temps, elle est assez intimiste, filmée de manière très sobre par rapport aux trois précédentes scènes hyper fortes, qui sont le combat de la salle du trône, l'évasion de Rose Finn et BB-8 et le sacrifice de Holdo. Bref, j'aime beaucoup ce moment du film et ce n'est qu'un des nombreux éléments qui font que j'adore The Last Jedi.
En parlant de Snoke, on arrive juste à mon plan préféré de tout le film. À ma scène préférée de tout le film, je crois, avec le cadavre de Snoke qui tombe du fauteuil comme ça, comme une grosse merde, avec, avec Hux qui est complètement dépité, qui se retourne vers Kylo qui est par terre, qui commence à sortir son blaster tout doucement en se disant « il y a peut-être moyen que… » Et dès qu'il commence à bouger, il est en rang genre « non, j'ai rien fait ». Non, tout va bien.
Et mine de rien, cette séquence, elle est grave utile parce que avant que en fait on la voit, je me suis dit non mais je suis sûr Snoke il n'est pas mort, c'est une ruse, tu vois. Et là tu vois le cadavre comme une merde en fait.
Le but, elle me fait beaucoup trop rire cette scène.
Oui, non, elle est cool.
Cette saloperie de Hux comme ça qui veut se débarrasser de Kylo, qui se ravise très vite. Ça c'est bon aussi pour leur développement, pour leur parce qu'ils ont aussi il y a aussi un truc entre les deux personnages, une dynamique très particulière et c'est cool. Cette scène est très cool.
C'est bon pour les fanfics, ça, putain.
En plus, c'est Donald Gleeson qui a eu l'idée de essayer de sortir le blaster pour buter
Kylo Ren.
Si.
C'est trop bien.
Dans les interviews, t'as lui qui fait, t'as Gleeson qui fait. Ah mais j'adorais quand on se foutait de la gueule du personnage et tout, c'était trop drôle.
Du coup, ouais,
il était trop content.
Mais c'est ça qui est parfait. Attends, c'est une caricature du fascisme.
Mais c'est ouais, lui c'est le nazi de l'histoire pour le coup.
C'est une caricature d'Hitler et de Mussolini, oui. même peut-être plus de Mussolini, mais.
Oui.
Et pour moi, c'est aussi une figure de l'alt-right, quelque part aussi.
Voilà, oui.
Tout le premier ordre, de toute manière, tout le premier ordre. Mais,
oui.
Mais clairement, il est montré par son discours dans l'épisode 7, par plein de trucs. C'est
un néo-nazi.
Caricature, quelque part. Ouais. Par moments, elle est sérieuse et dramatique. Par moments, on s'en moque. Il faut s'en moquer.
Ben
et
oui.
Ce qui est bien, c'est qu'on prend plaisir à se moquer de Hux. J'adore le personnage de Hux parce que voilà, c'est une caricature du fascisme et qu'on s'en moque et qu'il est pathétique, voire même pitoyable par moment. Mais c'est ça qui marche trop bien. Et c'est la dynamique qu'il a avec Kylo où il aimerait être vizir à la place du vizir. Et enfin, c'est.
Oui!
C'est ça qui est bien, quoi. Tu peux pas prendre ce personnage-là au sérieux. Et le coup du blaster, c'est juste parfait parce que c'est tellement une sale petite merde qu'il a son. entre guillemets, son supérieur, et un mec qui est autrement plus capable que lui de faire des trucs, il est prêt à le buter juste pour être au-dessus de lui, enfin pour être chef à la place du chef. Quoi. C'est formidable, quoi. Et dès qu'il voit que ça ne peut pas se faire, il se ravise, il range son blaster, j'ai l'air de rien.
Et c'est ce que disait, c'est ce qu'a pensé Rian Johnson quand il a repris pour faire The Last Jedi. Il a vu Hux et il a adoré le personnage tout de suite et il s'est dit, il y a un potentiel comique avec ce personnage qui ne peut pas ne pas
la première, en plus, dès la première scène.
Et Donald Gleeson.
Et sa mère, alors.
Donald Gleeson était absolument ravi. C'est-à-dire que quand Rian Johnson lui a dit « Moi, j'aimerais bien rendre ton perso plus comique parce que je trouve qu'il y a moyen de le rendre très drôle », Gleeson, il était « Mais oui, mais j'attends ça depuis...
» Mais ça lui donne une autre profondeur, en plus.
Mais oui, et il attendait que ça, Gleeson. Il était trop content. C'est lui qui a fait pas mal de suggestions. C'est lui qui a fait le mouvement du blaster, là.
C'est bien de voir déglutir devant la baie vitrée quand il y a l'autre vaisseau qui est éclaté. Quand il gueule « Fire on that cruiser !» Voilà, c'est fini, mec. Laisse tomber, ça marchera pas. Oublie, assume maintenant. Mais c'est drôle de le voir gigoter.
Ces expressions faciales sont géniales.
Elles sont merveilleuses. Et là, en plus, à partir de cette scène justement qui est déjà hilarante de base, on va y venir. Il faut qu'on se dépêche maintenant, mais on va y venir. Mais elle est cette formidable dans la navette quand il y a Luke qui est en bas et c'est à pleurer de rire aussi. Moi, c'est formidable.
D'ailleurs, en parlant de ça, il y a encore une scène improvisée dans le...
Je voulais le dire.
Vas-y.
J'essaie de le dire depuis tout à l'heure.
Vas-y.
La scène où Kylo Ren dans je sais plus comment ça s'appelle, le gorille.
Ils sont dans la navette, eux. Ils sont pas dans le...
Dans la navette, il dit...
Tirer sur les speeders.
C'est ça. Et que Hux, il répète, c'est Donald Gleeson qui l'a improvisé sur scène. Et du coup, c'est vraiment Adam Driver qui se tourne vers lui en mode « What the fuck ?»
C'est génial.
C'est trop bien.
en mode, t'es peut-être le leader suprême, mais je suis général, c'est moi qui donne les ordres.
Oui, c'est trop bien. Et leur dynamique est merveilleuse.
Ces scènes dans la navette sont formidables quand ils le balancent à travers la navette et que t'as le pilote qui fait « Ouais, ok, bon, c'est bon, je voulais... »
Ouais, putain, c'est trop bien.
Et puis les cris de Donald Gleeson, ils sont trop bien.
Oui. Ah. C'est le nouveau cri Willem, tu sais.
Quand tu lui demandes... C'est bon, tu penses que tu l'as eu là
ouais. Mais en plus, c'est ça qui est génial.
On tire encore un peu ou c'est bon?
C'est ça qui est génial, c'est que le mec il se la pète en mode t'es vraiment déglingué, toi. C'est bon, tu penses que t'as eu l'autre et puis tu vois que l'autre il est pas mort et du coup ça le rend encore plus con d'avoir de s'être foutu de la gueule de Kylo Ren.
Ok. Et d'ailleurs, on retourne en arrière. Quand je parlais du thème des étincelles, à chaque fois qu'il y avait Ben, et ben c'est là qu'il décide de prendre le pouvoir. Et c'est le seul moment du film où il y a les étincelles qui vont non pas vers le bas, mais vers le haut. C'est The Rise of Skywalker.
Allez.
Lance.
Et c'est rigolo, ouais. qui se fait force choke là.
Ouch.
C'était rigolo parce que
c'est bon pour les fanfics aussi, ça.
C'est trop étrange qu'il ait utilisé l'expression le roi est mort,
longue vive de
vie au roi. C'est vraiment étrange pour le coup, comme
ouais, mais ça sonne bizarre parce que tu te dis, tiens, le premier ordre marche comme une espèce de monarchie, donc techniquement celui qui bute le roi peut devenir le leader suprême.
Non,
devient
le
leader suprême, enfin
ça marche comme ça. Snoke, il est arrivé là en butant des gens.
Mais sauf que Kylo lui-même dit que c'est la fille qui a tué Snoke.
Oui. Mais bon, le seul autre qui s'oppose à lui, il peut le buter, donc l'autre il dit rien parce que de base Hux il sait que s'il arrive un truc à Snoke, ce sera probablement lui ou Kylo qui prendront sa place. Et lui, il veut pas que Kylo prenne sa place parce qu'il est contre la force. Il trouve que Kylo est trop impulsif et pas fiable, etc. Et du coup, forcément, c'est pour ça qu'il a ce mouvement où je vais me débarrasser de lui tant qu'il est en position de faiblesse. Comme ça, je prends la place de Snoke et ça y est, c'est fait. Parce que de toute façon, qui va s'opposer à eux?
Mais voilà, bon, tout le monde se retrouve sur Crète. Et ils ont envoyé un message de détresse et ça part en couille.
Il y a le gros bouclier aussi, le gros bélier et le gros bouclier en fait aussi.
La grosse peau-porte et puis le
big ass door, comme dirait Poe. Alors que c'est lui qui est un bégasse. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce
qu'il y a? Bien dans la petite navette de secours.
Et donc, on a ces magnifiques Vulptex, d'ailleurs. Ils ont un nom.
Oui.
Qui traînent dans le coin. Qui ont pas servi à... Enfin, si, ils ont servi à quelque chose, je dis la merde. Excusez-moi.
Si, en plus, ils servent à quelque chose.
Ils servent à quelque chose en plus d'être beau. Oui,
en plus, c'est à la Rebels. Hein, c'est, enfin, je trouve ça à chaque fois ça me fait penser à.
Comment ça, à la Rebels, Rebels. Dans le sens où c'est la nature qui aide.
Ouais, c'est ça.
Le bien à triompher.
Les canidés encore.
Ça vient des westerns, ça. Bah, c'est pour ça que ça me saoule un peu d'entendre parler tout le temps des gens qui disent ouais, Mandalorian, c'est un western. En fait, Star Wars, c'est un western depuis le début. Hein, et vraiment. bah, alors, tout ça.
On parlera une autre fois, mais Mandalorian, c'est à 300%. C'est...
Non, oui, non, mais même Mandalorian, c'est un repris. Type de western. C'est un type de western, Mandalorian.
C'est vrai, oui.
Mais vraiment, là, cette idée de civilisation contre nature sauvage, c'est vraiment un truc du western depuis les années... depuis que ça existe, en fait. Hein, dans les années 20, 30, t'avais des films...
C'est aussi un truc assez japonais, il me semble.
Plus ou moins, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Ouais, en fait, les westerns, les films de Jedi, hein, le nom est repris par Lucas. En gros, c'est plus ou moins. Bah, il me semble que Jedi, c'était genre un truc dans le délire. En gros, bah, c'est des combattants à l'épée, enfin, je sais pas quoi exactement. Mais en gros, le western et donc les Chambara et tout le truc comme ça, et ben en fait, c'est plus ou moins des cousins, quoi. T'en avais un qui était occidental et un autre qui était oriental, quoi.
Mais tout est lié.
Tout est lié.
Et le premier ordre se pointe avec d'énormes quadripodes encore plus gros que les précédents.
Et d'ailleurs, il y a les précédents à côté qui sont.
Et les précédents à côté à l'échelle qui sont ridicules. Ouais, ils sont là.
Ils sont trop cool, les nouveaux.
Il leur en reste quelques-uns. et un mini canon de l'étoile de la mort pour défoncer la bigasse d'or.
Et vous croyez que si on pète un des cristaux des renards et qu'on le met dans un sabre laser, ça fonctionne?
J'essaierai pas.
Je pense pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir.
C'est pas du kyber.
C'est pas du kyber.
Genre, tu brosses ton Vulptex et tu récupères ces cristaux sur ta brosse et puis tu te fais des sabres laser.
D'ailleurs, vous saviez que les Vulptex, ils ont essayé de les faire en effet pratique, mais ça rendait pas très bien.
Parce qu'il y avait des images, justement, effectivement, ouais, des animatroniques. Ouais,
ils avaient mis sur des chiens aussi. Un costume sur des chiens. Ils ont tenté.
Il y en a qui ont essayé.
ils ont eu des problèmes.
Il est trop drôle, le chien-chien, il a son costume de Vulptex, sauf la tête, et tu le vois courir comme ça.
Oui.
On arrive à un des plans, et je me demande si c'est pas un des rares plans méta, pour le coup, du film. C'est le plan où on a d'ailleurs, au second plan, le réalisateur de Rogue One, c'est le mec qui goûte le sol de crête et qui dit...
ce qui est entre parenthèses quand même un peu con à faire.
Le mec qui voilà. Bouffe le sol.
C'est quand même sur une galaxie avec des milliers de planètes. Il y en a des toxiques, il y en a qui flambent. Le mec qui goûte le sol.
Il y a des gens qui ont écrit une fanfic où il va sur plein de planètes et il teste le sol.
Le mec, c'est vraiment un fétiche, quoi. Le gars, il goûte le sol des planètes.
Ah, je me souviens, le sol de telle planète, ah, c'était le meilleur que j'ai goûté.
Bah, quelques rageux, futurs rageux, je sais pas. Mais moi,
je suis d'accord.
Je l'interprétais ainsi. Hein.
J'ai envie d'y croire.
Moi, le problème, c'est pas qu'il goûte le sol, à la limite, ça... bon, je suis un peu du genre à goûter n'importe quoi, c'est qu'il le fasse là où l'autre a foutu ses godasses dégueulasses. Genre, tu goûtes le sol, tu goûtes à un endroit où personne n'a touché, comme ça, t'es sûr que c'est propre. Tu goûtes pas là où le mec a marché avec ses godasses. C'est crade, les godasses.
Il y a un double fétiche, pied plus goûter le sol.
Combo.
C'est tellement con.
Pour vous, c'est méta, c'est vraiment genre...
Salt.
Si vous avez le seum, des os.
Non. Pour moi, c'était juste pour éviter que... C'est comme hot, c'est de la neige.
Alors, c'était un vrai désert de sable. Hein,
Adrien, t'en penses quoi?
Moi, je pense un peu comme toi, Matt, parce que juste avant, ils le disent, je crois que c'est Leia qui le dit à la Résistance en disant, genre, on boit sur cette planète, c'est une planète...
minérale,
genre,
ouais.
Ouais, c'est ça, minérale, genre salée ou je sais pas quoi. Et du coup, clairement, ce plan qui est vraiment... Moi, je l'ai beaucoup utilisé en GIF. Hein,
pareil, mais dès la sortie, je voulais un GIF de ce
plan-là. Ouais, pareil. J'ai vu ce plan au cinéma la première fois que j'ai vu le film au cinéma. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment un gif, quoi. C'est trop bien.
Et j'aime le croire, en tout cas. J'aime croire que c'est un...
Ouais, non, je pense vraiment que c'est...
Ouais. Pour dire que la planète était faite de sel, enfin d'une croûte de sel, et que ça allait un tout petit peu plus loin que ça. J'espère que c'est le genre de... En plus, Ryan, c'est le genre à faire ce genre de truc. Enfin,
il est fin.
Il est fin comme réel. C'est pas le mais mec qui clair. Va...
Mais il est fin et dans le turfu, en plus, quoi. Vraiment,
il troll. C'est le mec qui troll les entiers, quoi.
Heureusement pour le gars qui a goûté que c'était une croûte de sel et pas une croûte de pu.
Oh non.
Et pour revenir vite au film, rapidement, on a de très jolies scènes dans les petites tranchées qu'il y a devant le fort, là, qui rappellent un petit peu forcément celles de Hoth, mais ouais. C'est très cool. Ça ramène un petit peu de dynamisme à ce moment-là du film, et c'est sympathique.
Crète est belle, hein, c'est une belle planète.
Crete, c'est pas une bataille, en plus, hein, c'est un massacre. Genre, ouais. Littéralement, il ne tue personne. La seule qui fait des kills, c'est Rey. Oui. Sinon, c'est
un massacre. Ils se font fumer, hein.
Oui, c'est pas un massacre, parce que
c'est une exécution. Film, hein, ils se font fumer. Hein, c'est...
Mais Crete, quand même, faut en parler, elle est magnifique, cette planète, quand il va dans la cave, dans les sous-sols, enfin dans les espèces de caves de cristal qui sont magnifiques.
La grande idée esthétique, et par contre, là, je suis d'accord avec certaines critiques, c'est qu'elle est légèrement sous-utilisée, c'est une super idée d'avoir un sol minéral rouge avec une couche de sel bleu blanc par-dessus.
C'est pas sous-utilisé.
Mais ça aurait pu servir encore plus. On a quand même des plans qui sont magnifiques, hein, avec les speeders qui se déplacent, avec ses traînées derrière. Enfin, ça reste très très beau. C'est raté. Mais tu te dis, avec un potentiel pareil, la bataille aurait pu être un peu plus à une autre échelle. Mais je suis d'accord, bah, vu le film, ça me convient très bien. Et vu comme ça se passe, ça me convient très bien. Hein, mais tu te dis, bah, la même chose avec plus d'opposants d'un côté comme de l'autre, ça aurait eu une autre gueule. Enfin, c'est tout. Mais le film convient très bien comme il est. Hein. Mais cette idée est géniale, en tout cas.
C'est peut-être comme le problème de ne pas avoir plus donné d'espace à comment elle s'appelle, à Phasma, c'est qu'il y a tellement plein de trucs dans le film, donc ils sont...
Oui, voilà. Il y a déjà tellement de choses dans le film, pour le moment, faut se décider. Quoi.
Mais ouais, donc le lac souterrain entouré de cristaux partout, là... Magnifique.
Mais ce qui est intéressant avec Crete en plus, c'est que même ce choix de couleur et aussi du sel, c'est très intéressant symboliquement parce que, après, comme on verra, c'est littéralement le processus de guérison de Kylo Ren, de Ben Solo. T'as la grosse trace rouge faite par le canon. Et durant sa confrontation avec Luke, le sel retombe sur le truc et en gros tu te mets du sel dans la plaie, mais en même temps, ça fait mal, mais en même temps ça t'aide à guérir.
Il refait la même grosse trace rouge mais avec ses pieds d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Et au moment où il...
pas du sel pour rien.
Au moment où il bute Luke.
Ouais, ça a du sens, hein, le fait.
Il refait la plaie.
Putain, je lui ai écrit un gros truc, mais je sais
j'aime que chaque impact de tir de blaster, etc., laisse une trace comme ça derrière. C'est très visuellement, ça marche super
bien. C'est trop bien.
Et puis c'est ce qui a un peu fait le fond de commerce de tout le design autour du film, en fait. Ouais. Tout ce qui était le marketing,
Le code couleur du film, c'est blanc et rouge. Hein, c'est...
Ouais, ouais.
On a l'affiche là en face de nous.
Peut-être que.
Je sais pas si on l'a dit, mais c'est clairement, en tout cas, des derniers, même de tous les films, je crois que c'est le plus visuel, le plus graphique. Au sens couleur, fin. Enfin, il est très graphique comme film. Ça reste un Star Wars, il y a clairement une patte Star Wars, mais derrière, il y a vraiment, j'ai l'impression. Pour moi, j'ai le sentiment que du marketing comme jusqu'au film, il y a vraiment eu une intention qui a chapeauté tout le design du film.
Ah, c'est pas comme Force Awakens et Rise of Skywalker. Hein. Voilà. T'as pas pour les autres, t'as pas une cohérence.
Comme, le pire, comme c'est quand même pour Rise of Skywalker. Ouais. Ça fait vraiment mal aux yeux.
Ça fait vraiment
fou les moyens de base. On dirait vraiment qu'il n'y a pas de ligne directrice dans tout le marketing, dans tous les...
La rouge et bleu, quoi. Limite, c'est plus... moi je préfère, parce qu'au moins là ils ont principalement du rouge et du bleu, mais je préfère par rapport à TFA, parce que TFA pour le coup il n'y avait vraiment aucune ligne directrice.
Ouais, mais encore tu dis ça, mais regarde, j'ai un exemple, les boîtes de Lego, elles sont noires et jaunes.
Ouais, c'est n'importe quoi. Quoi ça ?
Le film, les couleurs, c'est noir et bleu. Il y a du rouge, il y a du violet parce qu'on a le bleu de Ray, le rouge de Ben. Ça part dans tous les sens et ouais, on a des visuels qui utilisent des couleurs, des dynamiques de couleurs qui font pas écho entre elles. C'est, alors que vraiment, l'épisode 8, tout le marketing et le film et la com et les affiches et tout a vraiment une thématique. On a vraiment un travail, rien que la salle de Snow qui a un travail énorme, il y a un travail énorme sur Crete, il y a un travail énorme. Enfin, à chaque fois, il y a vraiment, je dis pas que d'habitude c'est pas inspiré, qu'il n'y a pas un design, mais le seul autre film comme ça, je crois que c'est Solo, qui a vraiment une ligne directrice, ouais. Pareil, tout du long,
une
touche artistique qui dure, mais autant tout le long du film que aussi tout le long de la com derrière. Et le 8, il est encore un cran au-dessus.
Ouais, en fait, les autres films comme TFA, ils font très générique. Surtout au niveau de la promo et tout, ça fait vraiment du comme s'il y avait un standard, alors que c'est vrai que t'as beaucoup plus de scènes de The Last Jedi qui te marquent au niveau des couleurs, au niveau des émotions, de la mise en scène, de la lumière et tout. Tu vois des images fixes dans ta tête de
la salle du trône de Snoke, c'est le parfait exemple. Enfin, Crete.
Et c'est tout du practical en plus, la salle de trône, c'est incroyable.
Mais les couleurs, les couleurs de la pièce, de la salle, Crete, pareil, les couleurs rouge, blanc, le sol, machin. La salle du trône, c'est rouge sur les murs, noir sur le sol. Ça marque comme ça et tu te dis, ouais, ok, ce film, je sais ce que c'est, direct. Tu captes tout de suite d'où ça vient, en fait.
Après, je trouve encore que le marketing de... Je prends une petite parenthèse, hein, mais de TFA, il y avait des trucs vraiment jolis. Des affiches de personnages individuels. Ils étaient vraiment stylés avec le Rey avec son bâton, tu sais, en gros plan, Finn avec son sabre, enfin, avec le sabre, Leia avec un hologramme, je crois, et ensuite, il y avait Kylo Ren avec son sabre rouge. C'est vraiment joli, mais là pour le 9, il n'y a rien, quoi.
Sauf qu'on va revenir au 8 tranquillement, hein, parce qu'il y a toujours des choses.
Désolé.
Mais c'est ma faute, c'est moi qui ai lancé le hors sujet, je m'excuse.
Toujours la faute de Matt.
Parce qu'il y a des trucs à jour en plus par rapport aux personnages. Là.
Ah oui, il se passe plein de trucs.
Ouais. Po a enfin appris sa leçon. D'ailleurs, personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Ça y est, il n'a plus besoin d'une femme pour le guider. Il commence à prendre ses propres responsabilités.
Il se l'est même réapproprié parce que Holdo, elle disait...
Non, enfin, je ne suis pas encore là.
Ah, pardon.
Et okay. Même Leia lui a reconfié le truc. Enfin, Leia, vu qu'il l'avait compris, je crois, elle le laisse gérer.
J'en suis toujours avant le tir, moi.
Ben, moi, j'en suis au speeder encore. C'est pas lui qui prend la décision d'y aller avec le speeder.
Ouais, ok, d'accord, je vois ce que tu veux.
Et de réaliser que ça aboutira à rien et qu'il faut faire demi-tour. Ouais. Ça, c'est après.
Ouais, et tout ça pour dire que voilà, ça y est, l'un des hommes a commencé à écouter les femmes qui lui donnaient la
Finn qui l'a fait
d'abord. Et puis le deuxième écouté juste après, c'est Finn, justement.
Voilà. Ouais. Moi, je me souviendrai toujours. J'étais trop stressé. Je croyais vraiment qu'il allait mourir là.
Mais pareil, je crois qu'ils allaient me faire une Toy Story 3. J'étais pas bien.
Bah, ils nous ont fait une Toy Story 3 parce qu'au final, dans aucun des deux, il meurt.
C'est ça. Mais ils m'ont fait la même, en fait. Hein.
Ouais, c'est ça.
Jusqu'au bout, j'y ai cru. Hein.
Et je trouve ça intéressant de voir. Ouais, le film lui a empêché de faire son sacrifice, mais le film te dit que ça sert à rien.
Et puis même, à quel moment tu crois que c'est bien, sacrifice ? Enfin,
c'est littéralement, on t'a présenté le dernier sacrifice du film comme un truc terrible. Genre, ils n'étaient pas tristes pour le vaisseau hein, quand Holdo, elle est morte. Et du coup, je trouve ça vraiment étrange, ce comportement de juste pour pouvoir dire que le film a pas fait un truc. Ben oui, mais il a pas fait, mais en même temps, il t'a dit pourquoi il le faisait pas.
Et puis en même temps, t'es pas content que Finn ait survécu. Si tu t'aimes tant le personnage, tu devrais être content qu'il soit pas mort. Enfin, je sais pas.
Il y a quelqu'un qui disait à John Boyega une fois j'adore Finn, je suis vraiment désolé qu'il l'ait pas tué dans le film. Et genre, le gars était super sérieux.
Bah, c'est peut-être encore ce schéma que les. Le nouveau film de Star Wars, c'est de déconstruire sur voilà le héros qui va se sacrifier, qui va le héros américain, voilà
le soldat américain.
Un petit peu viriliste aussi au passage.
Donc c'est peut-être ça. Donc pour vraiment prouver sa valeur, un héros, bah il doit mourir et tout le monde et il doit avoir une jolie cérémonie d'enterrement avec des mecs qui tirent en l'air avec la trompette.
Non, c'est pas. Il doit être un mec hein, parce que pour...
si ça aurait dû être Akbar. Ça aurait dû être un mec.
Ah oui, oui, c'est vrai. Il y en a qui ont fait la scène avec Akbar, putain.
Quand c'est un mec qui quand c'est un mec qui sacrifie comme ça, c'est super cool, mais quand c'est une meuf, oh là là, c'est n'importe quoi, hein, ça n'a pas de cohérence.
Oups.
C'est dommage quand même, toute cette belle créativité utilisée pour rien.
Pour de la merde.
C'est clair.
Ça prouve que les mecs, ils savent éventuellement arriver à faire des trucs bien, mais ils utilisent pour des trucs nuls.
Alors que vous pourriez faire des fanfilms sur Dark Vador.
Oui, putain, mais...
oh la vache.
Faites des bons fanfilms, moi j'en parlerai, putain de merde.
Moi, je me demandais par contre comment ils ont fait pour le constat d'assurance, pour le Radius, parce que comment tu justifies ça, enfin,
je pense vraiment qu'ils ont des assurances.
qu'est-ce que tu coches sur le constat, parce que c'est collision à l'avant, il reste plus rien du vaisseau, c'est compliqué, enfin
bah, les assurances elles sont possédées par le premier ordre, donc ils sont foutus.
Du coup voilà, il se fait sauver par Rose et du coup il paraît que c'est pas bien. je sais pas.
Moi, je dois admettre qu'il y a un truc que j'ai pas trop compris et que je comprends toujours pas énormément, même si ça me dérange pas plus que ça, c'est le bisou.
Écoute,
c'est juste un moyen de lui faire comprendre qu'elle tient lui.
Bah, elle est tombée amoureuse de lui, c'est tout.
Ouais, c'est tout.
Elle est vraiment crush.
Eh oui, elle est tombée amoureuse de lui. En tout cas, dans la novélisation, c'est très très clair. Hein. Au début, elle est impressionnée, machin. Après, elle est déçue par son comportement. Et après, plus elle est avec lui, elle apprend à le connaître, plus elle voit à quel point c'est quelqu'un de bien et tout. Et dans le truc, elle pense en elle-même. Elle se demande, est-ce que je suis pas en fait en train d'avoir des sentiments pour lui.
C'est vraiment pour lui signifier qu'elle tient à lui. Et, voilà.
Elle a un vrai crush sur lui.
Qu'elle veut le pécho. Voilà.
J'ai trouvé, je vais avouer, hein, la première fois que je l'ai vu, j'ai cringé.
Moi aussi, et puis même femme pareille, on a cringé un peu. Enfin, moi, je me suis dit, bon,
ça vient peut-être de la tête que Finn fait à ce moment-là. Lui, il n'a pas l'air de bien comprendre ce qui se passe.
Oui,
moi, j'aime pas les bisous dans les films. Enfin, je trouve
mais
ça trop
nul.
C'était pas tant le cringe, c'était vraiment le côté genre, fallait qu'il y ait un bisou, vous faites chier, putain.
Oui,
quoi,
c'est ça. Et au final,
c'est mignon quand tu vois la petite bouille qu'elle fait et tout.
C'est exactement ce que je disais. Je m'attendais à du Storm Pilot. Et à la fin du film, au début, je disais, ah non, on aurait pu avoir Storm Pilot. Et puis.
C'était pas possible, en fait, après cette scène-là. Quoi.
Mais en fait, Poe, il est marié à son vaisseau et à BB-8. Je veux dire,
le vaisseau, il est mort. Hein.
Oui, bah il en aura un autre, c'est pas grave. Mais je veux dire quand Rose et Finn arrivent, il fait Rose Finn et puis après il réagit super bien à BB-8.
Il est il y a la bagarre.
Ouais, il est à l'adrénaline. Non mais je veux dire il est plus inquiet par rapport à BB-8 que par rapport aux humains. Hein.
Ouais.
Voilà. C'est bien un mec ça.
C'est un mécanophile.
Mais bon, j'espère toujours qu'il est au moins bisexuel, Po.
Mais il est pansexuel, il baise aussi des droïdes.
Ah oui, c'est vrai. Okay, on
il est sapio.
Putain, le meilleur coup.
Oh, merde.
Ouais, c'est clair. J'ai beaucoup à t'apprendre, fiston.
Et du coup, pour la première fois de la saga, Leia perd espoir.
Ouais. Mais pas longtemps.
Quoi ?
C'est drôle parce qu'elle dit que c'est la galaxie qui a perdu tout espoir alors que c'est elle.
Parce que, comme je le disais, c'est elle représente l'espoir dans la saga.
Mais ça y est, Luke a arrêté d'être un sale con. Pas Mark Hamill, malheureusement. Le salopard.
Moi, j'aime bien Mark Hamill.
Moi, ça dépend du moment.
Ça dépend des jours.
Il a ses bons moments.
Oui, c'est ça.
C'est un vieux, quoi.
Oui, mais ouais, mais c'est clair.
C'est un boomer, mais il se soigne.
Ouais,
mais c'est trop drôle parce que il se comporte comme Luke. Genre,
mais oui,
tu vois pas un petit parallèle, mais.
Ah, mais c'est Monsieur Wawa. Il est gentil, Luke, mais c'est Monsieur Wawa.
Et du coup, il y a Luke qui arrive, et pour la deuxième fois de la saga, il y a le thème de Luke et Leia, qui est un de mes préférés de la saga et qu'on n'entend que sur la scène dans le village Ewok, sur le pont. de nuit, et puis au moment où ils se retrouvent là.
Moi qui pensais que ton thème préféré c'était les Ewoks qui font la fête à la fin de l'épisode.
J'ai dit que c'était un de mes, mes préférés.
Il y a 9. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a il dit qu'il est désolé, elle lui dit I know, enfin c'est petit écho peut-être à l'épisode 5. Ouais. Je ne sais pas, mais je trouvais ça drôle.
Attends.
Écho à quoi ?
Le jeu je t'aime, je sais que Leia dit ça, à oui. Anne la réplique je sais.
Et voilà, et puis c'est aussi la seule scène qu'ils avaient tous les deux ensemble dans la post-logie, en tout cas pour de vrai.
C'est vrai.
Et du coup, tu...
C'est triste. Hein, ça l'a encore plus triste, la scène.
Ouais.
Mais elle est trop belle aussi, cette scène.
Ouais. C'est vrai. C'est une belle scène d'adieu, en fait, quand tu y penses.
Ouais. C'est pas fait, c'est ce qu'il disait, d'ailleurs, Ryan et tout, c'était pas fait exprès sur le moment, parce qu'on savait... On ne savait pas qu'elle allait mourir. Et au final, ben, c'est une très belle scène d'adieu. Et...
Leia représente l'espoir. Et du coup, à ce moment-là, elle le perd. Mais quand il revient à l'espoir, il revient de entre guillemets, la nouvelle génération de Poe, de Rey, de Finn. Quand il, après, réussit à s'enfuir, à s'échapper de là. Quoi. Donc, pareil, là aussi, on retombe sur cette histoire de passé qui doit, entre guillemets, mourir.
Passer la main.
Là, ce qui est intéressant, dans mes notes, j'ai marqué.
Un passage de flambeau, en fait.
C'est rigolo parce que j'ai marqué dans mes notes, justement, tu reviens jamais vraiment à la jeunesse et tout est fugace.
Oh, c'est beau. Mais ouais. Maintenant que tu le dis, effectivement, c'est que l'épisode 7, c'est un peu la formation, on va dire, hein, c'est l'apprentissage. Et l'épisode 8, c'est vraiment le passage de flambeau.
Ouais. Et le 9, ça va être...
Bah, et le 8, ça veut dire bah, et maintenant, ils se démerdent tout seuls et ils font ce qu'ils ont à faire. Quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo, il y a plein de gens qui pensent que quand il dit à Luc qu'il n'est pas venu pour sauver, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir. Mais en même temps, il dit « No one is ever really gone ». Mais en fait, ce qu'il veut dire par le fait qu'il ne peut pas le sauver, c'est que c'est pas, il peut pas le sauver parce que personne ne peut sauver quelqu'un d'autre, c'est lui qui doit faire le choix par lui-même de se sauver. Et c'est
ça, c'est valable pour tout, c'est valable même pour la dépression.
Oui. Heureusement,
c'est valable à tous les niveaux, tu peux te faire soigner, tu peux te faire aider, mais il faut que tu veuilles que ça soit le cas, sinon on peut pas faire grand chose pour toi.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'énervent contre les réglos en mode ah mais ils veulent réduire le rôle de Rey à sauver Kylo Ren, alors que non, c'est pas ça, c'est pas son boulot, et c'est exactement pour ça qu'elle lui ferme la porte au nez à la fin. C'est genre,
elle lui tend la main, lui ne veut pas, du coup elle ferme la porte, comme tu dis.
Il y a quelqu'un qui disait un truc intéressant, qui disait ben non, le truc c'est pas Rey qui est un objet ou quoi que ce soit, le truc c'est que c'est Rey le héros, et pourquoi elle aurait pas le droit d'avoir sa récompense, et sa récompense ce serait d'avoir le beau gosse et de pouvoir avoir son beau mec pour elle, quoi. Pourquoi
tu parles de Poe ou de Ben?
De Ben. Pourquoi elle aurait pas le droit d'avoir la récompense?
On a dit que sans pilote ça marchait pas, c'était plié.
Et Dame Rey alors?
Non.
Je ne veux jamais entendre parler à nouveau de Dame Rey sur ce podcast. J'arrête de vous écouter vraiment si vous en parlez un jour.
Il faudra vraiment qu'on fasse l'épisode sur les chips. Je suis désolé, mais.
Bah, pas Dame Rey alors.
Le truc, c'est justement ça. Ben devra se sauver lui-même. Et ensuite, Rey, elle pourra dire ouais, c'est bon, t'es worthy. Tu me mérites, je vais pouvoir faire ce que je veux avec toi.
Là, c'est peut-être un petit peu égoïste, mais en même temps, c'est bien. Là, cette fois-ci, là, il n'est pas là pour venir aider l'autre à se sauver, mais déjà l'aider à se soulager et lui-même venir s'excuser, en fait, d'enfin faire face à son échec. Et genre là, il lui fait littéralement face. Et Et voilà, il revient avec de manière très badass.
De quoi ?
Tu l'as bien expliqué en plus, tout le côté cathartique.
Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour ça que je ne reviens pas complètement dessus. Ce que je trouve assez intéressant, c'est la façon dont Kylo réagit face au retour de Luke. Et c'est littéralement enfin, il a un PTSD. Hein, le mec, il est tremblant. Il a la... il est sur le point de pleurer et tout. Et même quand il, enfin, quand le seul moment où il est pas tendu, c'est le moment où il croit que l'autre est mort.
Oui. Alors en qu'en plus, fait, il a plus le sens des réalités, qui est très typique aussi des crises de PTSD. Il réfléchit plus. Sinon, il aurait vu depuis longtemps que ça pouvait pas être Luke, parce qu'il ressemblait au Luke qu'il a connu genre 10 ans plus tôt. Il y avait plein de trucs. Il se serait rendu compte. C'est juste qu'il a perdu totalement le sens des réalités parce qu'il était en pleine crise.
Il est rasé, quoi. Enfin, il a la barbe taillée. Vraiment, oui, comme lorsqu'il.
Dans le flashback.
Comme dans le flashback, effectivement. Mm-hmm.
Et il n'a même pas le bon sabre.
Ouais. Il a plus aucun discernement. Mais non seulement par rapport à son PTSD, mais aussi parce que justement, il est coupé de Rey. Donc, il est... unhinged.
Même simplement le fait qu'il demande à tous leurs unités de tirer sur lui, c'est idiot. Enfin, c'est... Ça prouve également que voilà, il a aucun discernement.
Ah oui, il est effrayé. Hein.
Oui, c'est ça. Il a peur, hein, surtout, je pense.
Il a peur, il est en colère. Enfin, il y a tout qui se mêle, simplement. Hein,
Mais il a peur, mais il va quand même affronter sa peur. Donc c'est vraiment un gars courageux, hein. Parce que il tire comme un ouf sur Luke, et comme il est trop absorbé par son choc, il réfléchit pas en se disant ouais, il doit pas être là, sinon ça l'aurait forcément tué. Et il va quand même à pied devant le gars qui lui fait peur, donc il est vachement courageux. Hein.
Mm-hmm. C'est marrant parce que, pardon.
Non, juste pour redire, je suis assez fan de Hux à ce moment-là, qui est entre guillemets la voix de la raison, qui lui dit.
Après, qui se fait pas lancer.
Après, il se fait tèche à l'autre bout de la navette. Il est à nouveau hilarant et il désamorce rapidement cette scène. Ça fait, enfin. Je trouve que l'équilibre comique, juste très vite, l'équilibre comique du film est excellent parce qu'il arrive à désamorcer à chaque fois une situation qui devient un peu trop pesante pour un spectateur, même jeune, hein, simplement. Et c'est une des très grandes qualités du film, c'est que directement il arrive à jouer avec le ton vraiment de façon assez réussie.
Puis c'est très Star Wars aussi d'avoir plein de trucs d'humour, genre je veux dire le mec il a quand même fait un film où les méchants ils se font battre par des peluches.
Évidemment, si on présente comme ça.
Dit comme ça forcément, oui. Et on a aussi des blagues de paix.
Oui.
Ça, ouais. Jar Jar, si tu nous écoutes.
On a l'humour acide, l'humour caustique de Leia qui se fout toute la gueule des gars qui viennent la sauver parce que les gars ils savent même pas ce qu'ils foutent là. Non, c'est très drôle comme
ça. Pour un Stormtrooper, enfin des trucs comme ça.
Ah, t'es venu là-dedans, bah, vous êtes plus courageux que ce que je pensais.
Ce qui est intéressant, c'est souvent les gens, et principalement le cast et tout, quand je leur demande. Un des thèmes principaux de Star Wars, ils disent que c'est à propos de la famille. Et ce qui est rigolo avec ce truc-là, c'est genre c'est vraiment la version ultra épique et dramatique du fait de revoir un membre de ta famille qui t'a blessé pendant un dîner. Le mec, tu viens chez ta mère pour voir ta mère, t'as ramené un, pourquoi je mets une casserole, un tupperware, tu sais, avec ta petite salade de pâtes là, et puis là, regarde qui arrive, et ben c'est l'oncle putain de Luc. C'est rigolo.
Mais d'ailleurs, Luc, il est pas aussi cool que Tonton Chewbacca. Tonton Chewbacca, il fait faire les tours de vaisseau. Tonton Luc, il me fait réaliser mon histoire.
Tonton Chewbacca, tu fais des barbecues.
Il t'envoie ta copine en FedEx.
Il y avait Ryan.
Cool.
Il y avait Ryan qui avait dit que Ben représentait la colère de l'adolescence et le besoin de s'éloigner de ses parents pour devenir sa propre personne. Et c'est deux choses que que tout le monde ressent et veut à un moment de sa vie. Et c'est facile de s'y identifier, on en a déjà parlé. Et attends.
Pardon.
Et c'est, comme j'ai dit, c'est à ce moment-là que Star Wars, c'est à son meilleur. En fait, quand t'as le drame familial qui devient super réel, voire parfois un peu trop réel, voilà. Le reste de ma note n'a rien à voir.
Adam Driver aussi a parlé du fait que Ben, Kylo Ren, il doit trouver qui il doit être, qui il veut être. Et il disait, bah, des fois, quand t'es ado et tout, bah, t'as cette étape où tu dois tuer le père pas littéralement, mais dans le sens où tu dois te détacher de tes figures parentales auxquelles tu t'identifies pour devenir une vraie personne à part entière et qui toi tu veux être et pas qui tes parents te dictent d'être. Et du coup, il disait, bah, pour Kylo Ren, c'est littéral, hein, il tue vraiment son père pour de vrai, pour le coup.
Oui.
Mais voilà. Et du coup, ça c'est par rapport à ce que tu avais dit par rapport à Ryan, du coup.
Pendant ce temps, il y a Po qui décide enfin, qui réalise enfin qu'on n'a pas besoin d'être au centre de l'action pour aider les gens. c'est bien, voilà. C'est bien, il a appris vite.
Ah, lui, il a vraiment appris. Hein. Lui, ça fait 3 semaines que là, il engrange. Hein. C'est...
Et en plus, il se réapproprie la leçon qu'il a apprise parce que c'est Holdo qui parlait tout le temps de The Spark of the Resistance, l'étincelle de la résistance. Et Holdo, elle disait, on est l'étincelle de la résistance qui va rallumer l'espoir de la galaxie, un truc comme ça. Et lui, quand il ressort la même réplique, il dit, on est l'étincelle de la résistance qui va foutre le feu au premier ordre. Et du coup, il s'est réapproprié sa leçon et il a pris son propre chemin dedans en mode ouais, mais nous, on va quand même pouiller la tronche des autres parce que bon, c'est ce qu'ils aiment faire le plus.
Et d'ailleurs, un truc dont j'ai pas parlé, d'ailleurs, c'est rigolo comme. On n'a pas trop parlé de rêve, mais il y a eu la petite séquence du faucon là. Mais c'est rigolo comme on a dit déjà que Ben il était retourné dans ses travers et elle aussi en fait, parce que Rey, c'est quoi son travers principal, c'est de faire comme si tout allait bien, comme si de rien n'était. Et la meuf elle est là en train de tirer sur le truc. Ah, j'adore ça, trop bien.
J'adore tuer des gens. Ouais,
fait genre.
Elle a l'air de s'éclater à ce moment-là. Enfin, autant le personnage que l'actrice, elles ont l'air de s'éclater. Hein.
Oui. Et puis tu sais, elle sauve tout le monde et tout, elle est trop contente. Et puis là, elle tourne la tête et puis il y a Ben à genoux, tout malheureux. Et... Ah merde, c'est en fait, tout va pas bien.
Elle fait ces trucs-là, elle. Y a Ben, lui, sa façon de faire n'importe quoi, c'est de tout détruire, de tout casser. Et j'avais marqué. Ils ne peuvent pas te faire de mal s'ils sont tous morts.
je repense au duel, entre guillemets, au duel hein, de Ben et de Luke. C'est qu'on a à nouveau un plan vraiment de profil. Et Ben, il a encore cette même attitude, vraiment, sa posture. Il a une posture vraiment très particulière où il est assez bas, en avant, très agressif. Alors que Luke, pareil, est très droit, très détendu, même, à la rigueur, mais vraiment. J'aime beaucoup ce travail sur l'attitude parce que dans la trilogie, on avait beaucoup de chorégraphie, beaucoup de travail là-dessus, machin. Et là, on a une approche totalement différente, mais qui est super intéressante, quoi. Et ça, il l'a depuis l'épisode 7, cette attitude. Hein, on la voit rapidement dans la forêt sur Starkiller. Mm-hmm. Et là, c'est bien plus mis en avant et c'est très, très cool à voir.
C'est déjà dans le premier trailer. C'est super cool. Dans le premier trailer de Star Wars 7, quand il arrive, il est dos à la caméra. Il fait quelques pas, il se penche en avant, il dégaine son sabre et tu vois bien qu'il est penché en avant et animal prêt à en découvrir.
Je me souviens très bien justement c'était ce trailer et je me disais c'est juste une pause pour se la péter, tu vois. Je croyais que c'était vraiment une attitude et au final c'est vraiment sa posture de duel quoi en fait. C'est super intéressant qu'il y ait un travail là-dessus.
À chaque fois que je le vois dans sa posture de duel, à chaque fois il me fait penser à un serpent, je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai envie de dire que c'est cette posture de serpent, alors que genre, ça n'a absolument rien à voir avec un serpent.
Ça me fait penser à la bête, mais c'est à cause de Lucasfilm.
Et sinon, Luc, dans cette scène, il me fait penser à Chuck Norris à chaque fois. Je trouve qu'il ressemble à Chuck Norris avec sa barbe comme ça, et je me marre trop.
Alors, selon moi, c'est l'un des seuls moments où un Jedi, dans toute la saga, agit en Jedi.
Oui, je sais ce que tu veux dire.
Il tue personne, il arrive, c'est lui qui recrée l'espoir, et vraiment, il est en paix, quoi. Il est en paix.
Et il protège.
Il sauve tout le monde, il n'y a personne qui meurt.
Ouais, c'est ça. Et même les méchants, ils meurent pas, tu vois. Ouais, et quand t'as des gens qui disent, ouais, mais c'est nul parce que Luke, il aurait dû venir en mode, bon, je vais casser la gueule à tous les gens du premier ordre, et comme ça, c'est un vrai Jedi. Sauf qu'en fait, les Jedi.
Ils sont pas censés être comme ça, ouais. Mais ouais.
C'est comme les gens qui arrête pas de dire là depuis 2 ans, ah j'ai trop hâte que Rey décapite Kylo Ren. Genre,
mais ils sont cons.
Genre, est-ce que t'as vu les films précédents? Est-ce que t'as vu les héros de ton enfance qui meurent pendant qu'ils sont en train de s'excuser auprès de lui, pendant qu'ils sont en train d'essayer de réduire les dommages qu'ils lui ont causés? Je veux dire, il l'aime. Pourquoi? Il y a quand même une déconnexion en fait entre les messages des films et la réaction de certaines personnes, et c'est très frustrant en fait.
Et même si ils s'aimaient pas, je veux dire, il y a aucune raison pour qu'elle le tue. Dans Star Wars, ça a jamais été ça, quoi.
Non, et puis alors les gens qui décapitent les autres, ils finissent mal. Je veux dire, Anakin, il décapite du coup, il finit en Vador, il a plus de jambes, plus de bras.
Windu, il décapite Django.
Pareil, il se fait couper les deux bras et il finit électrocuté puis projeté à des centaines de mètres de. Enfin, voilà, c'est jamais bien.
Si Poe Dameron il s'en sort comme ça après l'épisode 8, il y a aucune raison que Ben Solo il une rédemption non plus, quoi. Enfin, ce serait dégueulasse.
Et sinon, ouais, la tronche de Hux, il est magnifique dans cette scène, et il a vraiment une tête, lui, pour le coup, il ressemble à un serpent. ou à un espèce de petit renard, ou un truc comme ça. Il est vraiment une...
Ouais, plutôt genre un
renard méchant.
Un renard, mais...
C'est Shipper.
J'adore Hux. Hein,
vous dites ça parce qu'il est roux?
Une fouine.
Ah ouais,
la fouine, le rappeur. Finalement. Ouais, c'est vrai, il est là, il fait je suis dans mon jacuzzi.
Ouais, sa petite tête de belette ou de fouine, là, de petit animal tout long comme ça. Okay. Et là, en plus, ça te pose les trucs. Parce qu'il y a déjà le conflit entre Kylo et Hux. Et là, en plus, tu vois que Hux, il est déjà en train de préparer son coup d'état.
Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire dans le 9, d'ailleurs, de Hux. J'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien. Et de cool. J'en profite parce qu'on arrive proche de la fin de tournage de Mark Hamill, mais je crois que c'est sa meilleure prestation.
Oui.
Il est formidable tout le long du film.
Il est génial.
C'est d'autant plus fort que on a su qu'il était vraiment en désaccord un bon bout de temps avec le réel. Et que malgré ça, il a fait un travail excellent.
Ouais, dans tout le film, hein, il est magnifique. Mark Hamill pour le coup.
Ouais. C'est d'autant plus pro de sa part d'avoir géré et suivi le Real alors qu'il n'était pas d'accord avec lui.
Comme il disait, c'est pas son personnage, quoi. Enfin, c'est lui qui l'interprète, mais il a aucun droit de décision.
Il a glow up de ouf, hein, depuis la trilogie classique, hein, c'est enfin original, c'est il joue beaucoup mieux, clairement.
Et surtout quand il meurt, enfin quand Luke meurt, quand il s'envole dans la force, ben ce plan là, enfin, tous ces plans là où on voit de face très très près avec des plans très serrés.
J'étais en train de penser, t'as dit il s'envole dans la force, j'étais la tête à lui qui est comme ça, il fait bisou, je m'envole. Je suis désolé, Adrien. Vas-y, continue.
Et du coup quand il s'envole, enfin il a ce côté à la fois très triste, très très marqué par toute sa vie passée, et en même temps il est en paix. Enfin, il est.
Mais oui, ben ça va. Il joue très bien la paix et détermination comme le ressent Rey.
Ouais. Et juste après la mort de Luke, on a un autre des plans iconiques du film, hein, avec la caméra digitale comme ça où on a.
Okay. Ouais.
Qui rentre dans la base avec suivi par ses.
Ah, il est beau ce plan.
Là, je crois qu'il avait servi pour le trailer, il me semble, ce plan.
Oui, on le connaissait depuis super longtemps, ce plan.
Il est superbe, il a vraiment pas une importance énorme, mais il est magnifique.
Il est trop beau.
Les traînées rouges au sol, comme ça.
Ah ouais, non, c'est magnifique.
Il a pas une symbolique énorme ou pas...
Il a pas une symbolique énorme.
Ah, il fait quoi, celui de l'épisode 3, c'est ça?
Ouais. Bah ouais, et c'est même tout à fait intentionnel.
D'accord.
Ah ouais, putain.
Ryan, il l'a dit qu'il avait toujours adoré ce plan-là, et du coup, il en avait profité pour le remettre là.
Mais je pensais qu'il était détesté Star Wars, Ryan Johnson, c'est bizarre, hein.
C'est étrange. Pour un mec qui ruine Star Wars, je trouve qu'il fait beaucoup de références au travail de Lucas, c'est bizarre.
Ah bah, je préfère quand même Dave Filoni. Hein. Ouais,
je te disais de dire quel plan du 3. On
oui, bah, le plan du 3 quand il rentre dans le temple Jedi.
Bah oui, mais il y a des gens qui l'ont peut-être pas forcément en tête, enfin. Soyons auditeurs.
Il n'y a pas beaucoup de plans zénithaux quand même.
Non, je suis...
C'est toi le Zénith.
Non, moi je suis content que tu l'aies rappelé, merci.
Il n'y a pas beaucoup de flambeaux dans Star Wars 3.
Oh non,
ça suffit quand même.
Non, j'exagère. En vrai, j'aime beaucoup. Non, il n'est pas moche, mais il n'y a pas autant d'idées de réalisation que dans le 8, quoi.
C'est vrai. Oui, mais de la prélogie, il a quand même pas mal d'idées de réel. Enfin.
On a déjà parlé de la prélogie.
Pas trop mal. Pas trop mal.
Mais ouais, non, en vrai, j'exagère, mais j'aime beaucoup ces films. Donc, ouais,
et ensuite, on a...
Quand Kylo Ren est à genoux là dans la salle et qu'il y a Hux qui le regarde par la fenêtre, et ben derrière il y a des quoi
par la porte.
Mais derrière t'as des, enfin tu sais, tu le vois d'abord passer par la fenêtre
oui.
Et t'as des stormtroopers qui marchent derrière.
C'est mon truc ça.
Ouais, vas-y dis-le alors.
Il y a un stormtrooper qui marche à l'envers.
Ah bon? Ouais, ils ont tourné là, ils ont passé la scène à l'envers.
Non, ils marchent tous dans le même sens et il y en a un qui va à reculons.
Pourquoi? C'est merveilleux. Une fois que vous le voyez, c'est excellent. T'as Hux qui avance puis qui se tourne vers Kylo là, avec son air mauvais et t'as plein de Stormtroopers qui passent derrière et t'en as un qui marche à reculons au milieu des autres. Et genre, trop de chill, tu sais.
Ça doit être Gary le Stormtrooper pour ceux qui ont regardé Robot Chicken.
Alors,
il est toujours là.
Ah oui, mais il regarde derrière lui, forcément. Oui, simplement.
Oui, mais c'est trop drôle parce qu'il est en train de reculer. Du coup, tu es en train de regarder le truc. Mais attends, mais il y en a un qui marche à l'envers. Là.
C'est trop cool.
En vrai, on se focalise tous sur Donald Gleeson qui est excellent.
Et du coup,
je le trouve bien ce perso. Je suis désolé, mais cet acteur et ce personnage, ils sont trop bien.
Trop génial cet acteur.
Moi, je dois bien avouer que il y a vraiment aucun personnage que j'aime pas là-dedans. Pour le coup, c'est plutôt le travail de JJ. Hein. C'est lui et Kasdan qui ont créé les personnages et ils ont vraiment fait un bon boulot, je trouve.
Pour le coup, pour Hux, clairement, il y a un glow-up avec John.
Oui, bien sûr. Mais ils en ont tous plus ou moins
il était super pâle, il était divide. Il y avait une dynamique de rivalité déjà avec Kylo et Hux dans le set, mais ça arrêtait là.
Mais Ryan, il a rendu tous les personnages ultra beaux.
Quoi?
Bah, dans TLG, les personnages sont tous ultra plus beaux.
Parlons des chefs.
Ah oui.
À part le mec qui se fait des phasures avec son visage absolument répugnant. Mais sinon, tous les personnages sont absolument beaux, magnifiques et plus beaux que dans le set.
Bah, moi, je le baise, hein, Snoke.
Je parle pas de Snoke.
Je croyais que tu parlais de Snoke.
Non, je parle pas de Snoke. Je parle du mec avec son fouet qui a quatre bras et qui s'occupe des enfants et des défonce, phasures.
Genre, le déglingue.
On voit même pas sa bouche.
Mais oui, le gars qui a les enfants esclaves.
Celui qui s'occupe des phasures.
Oh, ce mec-là, ouais.
Le mec dégueu.
Spéciale dédicace aux gens du Faucon Millénial. 5, 4, 3, 2, 1, prout. Donc moi c'est Aurélie, une moitié des Lucasfilles. Et la scène du dernier Jedi dont j'aimerais parler, c'est la dernière session Skype entre Rey et Kylo. Donc à la toute fin du film. Bon, dans l'absolu, j'aurais pu en choisir 10 000 des scènes, mais forcément, il fallait que je prenne une scène Relo, évidemment. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette dernière session Skype entre Rey et Kylo, c'est que pour la première fois, la scène est filmée du point de vue de Kylo Ren et non pas du point de vue de Rey. Depuis le début du film, on est dans la perspective du regard de l'héroïne, et dans cette dernière prise de contact entre les deux futurs amoureux, eh bien on est cette fois-ci dans la tête de Kylo et dans ses perceptions. Donc ça m'a beaucoup plu, effectivement, toute la façon dont c'est tourné, ça véhicule bien ce sentiment. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est la preuve que Snoke leur a menti dans la salle du trône et que ce Force Bond, ce lien qu'ils ont dans la Force, c'est bien quelque chose à eux et que tout ce qui s'est passé entre eux, c'était vraiment, vraiment sincère. L'un comme l'autre était sincère. Et c'est la preuve qu'ils peuvent encore se contacter l'un l'autre et qu'on risque d'avoir des choses très intéressantes dans l'intrigue de l'épisode 9 en rapport avec la persistance de ce Force Bond. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi leurs attitudes. On a Kylo qui, après avoir pété les plombs sur toute la bataille sur Krayt, paraît irrécupérable, foudrage, on a l'impression qu'il veut la tuer, etc. Enfin, que c'est foutu entre eux. Et puis au moment où la connexion s'établit, lui il est à genoux dans la grotte, dans la poussière, et elle Elle est en haut de la rampe du Faucon Millenium. Elle évacue les derniers résistants. Elle va partir. Et le regard que Kylo lui jette, moi, ça m'a fendu le cœur et en même temps, ça m'a donné plein d'espoir parce que il y a de la haine, il y a de la colère dans ce regard, mais il y a aussi énormément d'amour, énormément de regret. C'est vraiment le regret qui est le sentiment qui transparaît le plus. Et on se dit, ok, donc il est toujours amoureux d'elle, il veut toujours être avec elle, il la supplie avec ses yeux de porg pour qu'elle lui pardonne. Et donc ça laisse beaucoup d'espoir pour lui et ça supprime toute inquiétude qu'on aurait pu avoir par rapport à sa rédemption dans l'épisode 9 et à la fin de la saga. Bon, en plus, toujours Adam Driver amène une subtilité dans les expressions du visage, dans le regard. Il arrive à faire passer tellement de choses en très très peu de secondes. Hein. C'est une séquence qui dure très très peu de temps. Donc c'est admirable à ce niveau-là aussi. Et Rey, de son côté, elle est déçue, mais c'est pas gênant parce que c'est vraiment le sentiment qu'elle est censée éprouver à ce moment-là, suite à tout ce qui s'est passé entre eux. Et ça prouve déjà qu'elle avait des attentes pour lui, qu'elle espérait vraiment repartir avec lui, bien sûr. Et ça veut dire que la balle est dans son camp à lui et que tout est encore possible pour l'épisode 9. Donc vraiment cette rupture entre eux à la fin du film qui est nécessaire pour évidemment que dans le troisième acte ils se rejoignent de façon tout à fait triomphale et définitive, et bien moi ça m'a vraiment plu. Donc voilà, c'était la scène que j'ai choisie, le dernier Force Bond, le dernier Skype entre Rey et Kylo.
Là il y a Kylo qui joue avec les dés. Alors j'ai pas bien compris, les dés, c'est aussi un fantôme de la force, les dés.
Ouais,
il l'a ramené, c'est ce que...
Sauf que Luke il disparaît avant les dés.
Oui, on s'en fout en vrai. Hein.
Ok, non mais c'est un truc qui m'a fait un petit poil tiquer, je dois l'admettre. Mais
voilà. Après, tu sais, la relativité dans l'espace avec les planètes et tout ça.
Ouais, les dés avaient peut-être plus de constance.
Ouais. Et puis en plus c'est important qu'il tombe dessus parce que encore une fois il trouve un objet de son enfance. Je veux dire, dans l'épisode sur Kylo j'en ai bien parlé hein, du fait que c'était important les dés de son papa.
Père. C'est plus son père que son passé. C'est
oui, c'est papa. Et encore une fois le truc lui échappe de la main.
Et en plus les vrais dés sont dans le faucon avec Rey qui se barre et qui lui ferme la porte au nez.
En plus il y a un regard de chien battu à ce moment-là.
Ah ouais, il est trop mignon, c'est trop triste.
C'est si triste, j'ai eu envie de lui faire des câlins.
Mais grave, t'as envie que Hux il arrive et que tu lui fasses des câlins.
Et de pécho surtout.
Ouais. J'ai envie de tout, hein. Je vous avouerai que...
Quel bégé.
Ça part en vrille cette émission.
Il ressemble vraiment à un prince charmant hein, pour le coup quand il est comme
mais
ça.
C'est parce qu'en fait c'en est un littéralement.
Mais oui, c'est le prince d'Alderaan.
C'est le fils de la princesse quoi donc.
Oui.
Mais petit-fils de la reine, s'il te plaît.
Voilà, est-ce qu'on peut parler de la réunion dans le faucon avec tous les personnages?
Ouais, alors dedans il y a la réplique la plus nulle.
I'm Poe.
Rien du tout et t'as C-3PO qui fait « Such a friend ». Ok.
Toujours là pour gâcher le plaisir.
Et moi j'aime bien C-3PO dans ce film.
Oui, mais oui, d'ailleurs on en a pas parlé. Il est très
touchant avec. Enfin, c'est même pas une scène, mais Luke qui lui fait un petit clin d'œil.
Oui, ouais. C'est mignon.
Juste ça, tu te rends compte à quel point. Mais
je chiale bon, c'est putain, ça. Quoi.
Mais vraiment le truc du such a friend. Genre.
En lui tapotant la tête. Ah, petit
c'est sûr. Ça fait vraiment pas naturel, mais genre c'est, même pour ce 3PO.
C'est moins naturel que le I'm Poe quand même.
Ouais.
Mais ça c'est naturel. Je veux dire, ça fait plus de 5 minutes, elle l'a oublié.
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Ça fait exprès, j'avais zappé.
Et ce comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Ces plans, justement, où, je sais pas si c'est bien à toute fin, mais où il y a vraiment un plan fixe, où on voit tout le monde dans le vaisseau, on dirait genre un plan de sitcom, et je trouve que c'est un peu le plan qui fait tâche.
Ah, moi je trouve qu'on dirait un tableau de maître, tu sais, genre le tableau de la scène. Ou,
deux salles, deux ambiances, hein, clairement.
Mais je suis pas. Je suis pas...
Et le tableau ouais. De maître.
On dirait, tu sais, le tableau, genre la scène avec Jésus, là, machin truc, mais. ou ce genre de tableau de la. Pas la Renaissance, mais...
Tout se passe à la caméra. Même le porc, il pose, quoi. Il y a un
oui,
porc
c'est vrai que ça fait très posé. Mais justement, moi, je trouvais que ça faisait toile de maître, quoi. Ça faisait tableau de...
Ouais, pour le coup, ça fait tableau. Ouais.
Oh, et il y a Chewbacca qui fait un câlin à C-3PO. Oh.
Il l'aime bien, C-3PO.
Je ship. Ça y est.
Oh, oui. trop loin.
D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on aura une romance 3PO R2 dans le 9?
De quoi?
C'est trop tard.
Oh non, ils l'ont déjà depuis toujours, mais c'est platonique entre eux.
J'ai pas entendu.
C'est 3PO et R2 dans le 9.
Mais c'est depuis l'épisode. Ça, c'est...
Oh t'imagines la représentation LGBT dont il parlait, JJ, en fait, c'est ces 3PO et R2.
Ça serait tellement bien, ça serait tellement bien.
T'as R2 qui sort son petit en bout comme ça et qui le pleut.
Il commence à percer un trou dans lui. C'est 3PO. Et il fait, je t'aime, je te fais un trou dedans.
Il me reste encore un peu d'huile de revanche des sites, t'inquiète pas.
Allez, qu'est-ce qu'on est dégueulasse.
Alors, mais en vrai, c'est un vieux couple depuis très longtemps. Hein, les deux,
mais oui. Ouais, mais justement, montrez-le quoi.
Bah non, ça se voit assez. Enfin, tu veux qu'ils fassent quoi? C'est des droïdes.
Ils peuvent baiser.
Montre-moi ton port USB.
Non, mais genre, je sais pas, juste qu'ils disent genre, je t'aime.
Jouons un plug and play.
On sent que c'est la fin de l'épisode.
Oui.
Non, c'est la fin de l'épisode depuis plus de 2 heures.
Mais comme dit Léa, on a tout ce qu'il faut.
Ouais. Au début, j'étais très en colère contre la fin parce que c'était le petit blond là de merde qui clôturait le film. maintenant, j'ai.
Balai,
en fait, Ryan, il a dit que ça le représentait lui, le petit garçon.
Ouais, mais du coup, je peux pas détester Ryan.
L'idée est trop bonne, même si c'était un peu différent.
Mais les gens voyaient même pas qu'il utilisait la force.
Ouais.
Moi, je l'ai pas vu. La première fois que j'ai vu le film, je l'ai pas vu.
Mais moi, je l'ai vu tout de suite. J'étais genre, attends, il utilise la force vraiment, là, pour choper le balai. Non, mais il y en a plein qui l'ont pas vu. Hein.
C'est juste un kiff. Hein. C'est limite une scène post-générique.
Non, mais. C'est con, mais ce qui me gênait, c'est que t'as 3 enfants, le petit gars blond, la petite rousse et le petit noir, et c'était comme par hasard le petit blanc. C'est con, mais c'était pour ça que ça m'énervait.
Ah, t'as raison. Ouais, c'est vrai.
On aurait pu en profiter, mais en même temps. Pff.
Et après, voilà, Ryan s'en est rendu compte aussi. Il a dit, en fait, j'avais pas pensé parce que ça me représentait moi, donc j'ai pris un petit garçon qui me faisait penser à moi.
En plus, il a l'air trop mignon, le petit, en vrai. J'ai vu une photo de lui il y a pas longtemps. Il a grandi déjà beaucoup.
Moi, je me suis dit aussitôt, je me suis dit, ok, toi, genre, dans 9, tu vas y être, et genre, Ray, ça va être ta maître ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je me suis tout de suite imaginé, genre, en gros, ok, toi, t'es un padawan, quoi.
Il y en a beaucoup qui ont pensé à une pub Hasbro aussi.
Mais on dirait un peu, hein. Mais.
Moi, j'ai compris, je l'ai vu autrement, je l'ai vraiment vu comme une figure d'espoir, en fait.
C'est ça.
L'espoir de la rébellion, la Sparx aussi, l'étincelle, quoi. C'est...
Ah oui, la Sparte.
Avec
This is Sparta.
Sparx, Spark, pardon, mais avec ce qu'a fait Rose et Finn sur Sans Contre nos Bites, ils ont allumé l'étincelle aussi de la rébellion chez ces gamins, quoi.
Et puis il a l'anneau de Rose, justement.
Oui, justement. Mm-hmm.
Rose
qui ne sert à rien, il paraît. Hein.
Rose, quand elle fait un bisou à Finn, il y a une explosion derrière qui fait plein d'étincelles aussi. Hein.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais je repense au plan dont tu parlais, Adrien, c'est que c'est aussi une référence au plan qu'on a à la fin de chaque Star Wars de la trilogie classique. Hein. On a la scène avec les médailles dans l'épisode 4, on a... ils sont de dos, mais dans l'épisode 5, on a une scène un peu similaire. Dans l'épisode 6, là, c'est vraiment limite. S'il y a un freeze frame, c'est pareil.
Ouais. Ouais, c'est
une référence à tout ça, en fait, simplement.
Hein. Ok, mes petits enfants. Quoi ?
On y est, ça y est.
Ouais, ça y est, on a fini. Où est-ce qu'on peut te. Quoi ?
Non, rien, vas-y.
Non, oh, pardon. Où est-ce qu'on.
Mais enfin !
Merci de ta présence, Adrien.
merci à vous, mais trop content d'être invité encore une fois.
Pourtant, c'est 6h40, putain de merde.
Oh la vache!
Je n'arriverai jamais à monter tout ça, c'est impossible, je vais mourir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, moi, cher ami?
Sur Twitter, @AdrienDupatelin, mon compte Twitter Reylo, c'est @NikuVozo, donc le personnage de Star Wars Resistance, NeekuVozo. Et donc sur YouTube, sur ma chaîne Les Patelins des Passions. Voilà,
c'était super. Nous, vous pouvez nous retrouver évidemment sur. Est-ce qu'on est toujours sur Facebook ?
Ouais. On est toujours là. On prendra une décision plus tard pour voir si on continue, mais on est toujours sur Facebook.
Pour l'instant, on est toujours sur Facebook, Faucon Millennial, sur Twitter, @FauconPod, et sur YouTube, Faucon Millennial. Ouais, c'est ça, Faucon Millennial. Ouais, ouais. Et aussi, Faucon y joue.
Sur toutes les applications.
Sur Spotify, surtout si vous êtes des femmes de 25-38 ans, c'est ça?
Tout à fait.
A priori,
merci.
C'est notre truc démographique. Merci beaucoup, tout le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, sachez que vous êtes complètement cinglés, mais nous aussi. Que la force soit avec vous. Ciao.
Bye.
Salut.